franceinter.fr.
Des chercheurs français et américains qui sont parvenus à faire croître du tissu intestinal humain fonctionnel en laboratoire. Une première rendue possible par l'utilisation des cellules souches pluripotentes et qui soulève à la fois des questions et de nombreuses promesses pour l'avenir de la médecine. Maxime Mahé, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct depuis l'Ohio aux États-Unis. Vous êtes instructeur de recherche à l'hôpital pour enfants de Cincinnati et premier auteur de ces travaux qui ont été publiés hier donc dans la revue Nature Medicine. À quoi ressemblent ces organoïdes intestinaux, comme vous les appelez, que vous avez donc réussi à obtenir ?
Alors, ils sont tout petits, de petite taille tout d'abord, puisqu'on les génère dans des boîtes en plastique. Mmh. Donc, ils ont une taille de 1 à 2 mm, mais on a la possibilité de les transplanter dans un organisme, et ils vont grossir et atteindre une taille atteignant 2 à 3 cm.
À part la forme en forme de sphère qui n'est pas un tube comme notre intestin, qu'est-ce qui différencie ces organoïdes d'un intestin véritable ?
Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, il manque de nombreuses composantes. Nous avons un tissu épithélial avec un muscle qui va permettre la contraction. On va avoir aussi des neurones, mais il manque des cellules immunitaires et aussi un microbiome et des aliments qu'on va avoir passer le long du tube digestif qui ne sont pas encore présents.
Alors, racontez-nous un peu comment on fait, quelle est la recette pour obtenir des petites bulles d'intestin comme ça dans des boîtes de pétri ?
Oui, il y a une vraie prouesse technologique
quand
même.
Oui, c'est une prouesse.
Ouais.
Alors, la recette, elle est si simple que ça. Au final, on utilise des cocktails de molécules, de facteurs de croissance qui vont permettre de diriger et de donner une direction à ces cellules souches pluripotentes. Et au fur et à mesure du temps, on va reproduire dans cette boîte en plastique, en ajoutant ces facteurs au cours du temps, on va reproduire le développement de l'intestin comme il se passe dans l'embryon. Et on va pouvoir générer de cette façon ce mini-intestin dans cette boîte de culture.
Maxime, et c'est quoi exactement une cellule souche pluripotente ? Quelle est sa nature exacte ?
Alors, sa nature, la définition propre de la cellule souche pluripotente, c'est qu'elle a le pouvoir de totipotence. Elle peut donner tous les types cellulaires du corps humain. Et potentiellement, cette cellule souche, en fait, serait capable de donner plus de 200 et quelques types cellulaires que nous avons dans notre organisme.
Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas obtenir des tailles de boules un peu plus grosses ? Qu'est-ce qui vous empêche de faire grandir ces intestins à l'infini ?
Alors, pour l'instant, la limitation, je pense, est inhérente au modèle. Tout d'abord, au modèle de culture que nous avons dans le laboratoire. Les milieux que nous utilisons sont très loin de ce que peut produire un organisme à taille humaine. Et d'autre manière, on utilise des modèles animaux de petite taille qui aussi ont un côté limitant et qui probablement limitent cette croissance.
Donc votre modèle, là, en l'occurrence, c'est la souris, c'est ça ?
Exactement.
Ah, c'est un tissu humain que vous avez greffé sur des souris, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Ouais. On utilise la souris comme un bioréacteur et ce qui va permettre justement à ce petit tissu humain de grossir.
Donc ces souris, elles n'avaient pas de système immunitaire du tout quand vous avez fait cette greffe hein.
Alors, effectivement, oui. Donc ces souris sont immunodéprimées, elles n'ont pas de cellules immunitaires, puisque si on transplante un tissu humain, on va avoir un rejet comme on peut l'avoir lors d'une transplantation chez l'être humain. Donc on a été obligé d'utiliser ce modèle pour éviter tout rejet de greffe.
Quelles sont les applications de ces nouveaux tissus en médecine ou en recherche ?
Alors la première, elle est bien sûr en recherche fondamentale, puisque ce modèle va nous permettre de mieux comprendre les mécanismes physiologiques dans un tissu intestinal humain et aussi développer ça sur la compréhension des maladies digestives, des maladies motrices de l'intestin et autres maladies. À long terme, ça peut constituer un très bon moyen de faire de la médecine personnalisée. On rappelle, on utilise des cellules souches et ces cellules souches pluripotentes peuvent être issues d'un patient et on peut reproduire en culture un tissu d'un patient spécifique et on peut avoir une approche personnalisée, du moins médicale personnalisée. On va pouvoir tester des drogues sur ces petits mini-intestins personnalisés, si je puis dire.
Est-ce qu'à terme, on pourrait créer des intestins véritables de toutes pièces ou pas ?
Alors, à long terme, c'est bien sûr c'est une idée qui est envisageable. Bien sûr, puisque on peut générer cette cellule souche pluripotente d'un patient, on peut imaginer pouvoir développer des applications en laboratoire et transférer ce petit mini intestin, le transplanter chez ce même patient pour après le transplanter dans l'intestin même.
On n'y est pas encore, hein, évidemment. Là, on y est même très très loin, mais bon, c'est la promesse en tout cas de cette recherche.
Concernant ces cellules souches pluripotentes qui sont à l'origine de ces tissus, elles sont encore controversées. Est-ce que c'est un point qui pourrait bloquer pour d'éventuels tests cliniques greffés chez l'humain ?
Mais, je pense que oui, nous sommes encore loin de la greffe humaine, du moins pour le côté intestinal. Nous sommes encore aux prémices de cette technique. On a encore besoin de bien étudier le modèle, de le développer. Donc, à long terme, c'est envisageable. Je pense qu'il faudra encore passer sur d'autres modèles peut-être plus gros, des modèles d'animaux qui pourront bien établir et consolider cette preuve que nous sommes capables de transplanter ces cellules souches pluripotentes chez l'homme.
Est-ce que vous avez suivi les souris assez longtemps pour voir comment vieillissait ce tissu greffé sur l'intestin ?
Bien sûr. Alors, nous n'avons pas publié ces données-là, mais nous avons conservé ces transplants pour plusieurs années, au moins plus d'un an. Et après, nous avons fait des tests de tumorigénécité pour voir s'il y avait éventuellement des cellules pluripotentes résiduelles ou des cellules qui devenaient cancérigènes. Et nous n'avons pas. Les souris n'ont pas développé de cancer. Après, c'est un an. En plus, dans la mesure où ces souris sont immunodéprimées, on aurait pu avoir plus facilement le développement tumoral. Et dans ce cas-là, nous n'avons rien vu. Donc, ce qui est plutôt encourageant, et plutôt prometteur pour l'avenir.
Merci beaucoup Maxime Mahé pour vos explications depuis donc les États-Unis et pour cette première, en tout cas prometteuse, et on essaiera de suivre ça donc sur le long cours pour voir jusqu'où on peut aboutir. Merci beaucoup à vous et Axel, on se retrouve demain.
Exactement, à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une peinture thermosensible pour créer de l'électricité à partir de la chaleur. Voilà une nouvelle invention proposée par des ingénieurs coréens et qui permet de récolter de l'électricité sur des surfaces exposées à des températures supérieures à 50 degrés. Utilisable sur les immeubles, les voitures ou les machineries industrielles, cette peinture souple au tellurure de bismuth pourrait permettre de convertir directement en électricité toutes les pertes de chaleur importantes. Sur la piste des couleurs des dinosaures, un très vieux fossile d'oiseau découvert en Chine datant d'il y a 120 millions d'années a permis la mise en évidence de mélanosomes dans ses plumes fossilisées. Longtemps confondues avec des restes de microbes, ces structures moléculaires rondes sont les machineries cellulaires de base qui permettent la pigmentation de la peau et des plumes des oiseaux. Il ne reste plus qu'à déterminer quel type de pigment était fabriqué par ces structures pour pouvoir enfin donner de la couleur à ces très vieux animaux. Et puis pour terminer, de très belles images que nous vous invitons à découvrir, celle de la cristallisation des métaux à travers de magnifiques timelapses. Cette vidéo mise en ligne par le jeune chercheur italien Emmanuel Fornasier représente des heures et des heures de travail. Passionné de photographie, il propose dans ce film 18 exemples de cristallisation métallique filmés dans son laboratoire. Des solutions ioniques sont parcourues d'un courant électrique, ce qui crée de magnifiques dépôts brillants de toutes les couleurs et de toutes les formes. La poésie de cette chimie est à retrouver dès maintenant sur la page Facebook de La Tête au Carré.